Plus de 4000 victimes aux États-Unis, dont 40% sont morts.
Le sida, syndrome immunodéficitaire acquis. Une maladie qui enlève toute défense à l'organisme contre les infections les plus bénignes quand on en est atteint.
Mécanique des épidémies. Deuxième saison. Le sida.
40 millions de morts. 20 millions d'orphelins. C'est en 40 ans le bilan du sida. Or, cette épidémie ne commence pas avec sa découverte en 1981. Loin de là. Et c'est à son origine lointaine que va vous conduire l'épidémiologiste Renaud Piarot. Avec lui, comme auprès d'un détective, vous remonterez les indices jusqu'à la source, en passant par les instrumentalisations du KGB en pleine guerre froide, jusqu'aux chimpanzés dans l'Afrique centrale colonisée des années 20.
Une maladie effroyable qui supprime les défenses du malade, souvent jusqu'au cancer, parfois jusqu'à la mort.
On vous propose de passer de l'autre côté du miroir, de découvrir les coulisses de 5 épidémies récentes du point de vue d'un médecin de terrain, d'un chercheur, pour comprendre comment apparaissent ces maladies, comment les sociétés et les politiques réagissent et comment nos vies en sont bouleversées.
Premier épisode, entre New York et Paris, la pandémie des 4 H.
L'histoire commence aux États-Unis, on est en 1981. Le premier signal d'alerte pour le sida vient d'un magasinier, de quelqu'un qui travaille à aller récupérer les médicaments pour les expédier. Et en fait, il s'aperçoit qu'on lui a demandé plusieurs fois un médicament qu'on a très rarement l'occasion d'utiliser, qui s'appelle la pentamidine. La pentamidine est utilisée un peu dans les maladies parasitaires. Et puis, c'est le traitement de cette maladie qui s'appelle la pneumocystose, qui est une maladie qui normalement ne touche pas les adultes ou alors dans des conditions extrêmement particulières de dépression immunitaire forte. On connaissait des épidémies de pneumocystose, par exemple, chez des nourrissons malnutris. Le magasinier travaille au CDC, au Center for Disease Control, et à 5 reprises, on s'aperçoit qu'il faut délivrer ce médicament, la pentamidine, à des patients de Los Angeles. Et c'est là que la première enquête se fait sur ces 5 patients. Il se trouve que ce sont tous des hommes plutôt jeunes, qui n'avaient pas de maladie particulière jusque-là, et qui tout d'un coup tombent malades. Alors ils ont non seulement cette maladie pulmonaire qui s'appelle la pneumocystose, mais quand on cherche les virus qu'on connaît déjà, on va trouver chez ces malades un virus qui s'appelle le cytomégalovirus, tous longs. C'est un virus qui se transmet éventuellement par des rapports étroits, on va dire. Et puis, ils font aussi des infections des muqueuses, de la bouche en particulier, liées à des champignons qui s'appellent les candida. Donc, on ne comprend pas ce qui se passe chez ces patients. Pourquoi tout d'un coup, ils ont des maladies qui traduisent une déficience importante de leur immunité. Et c'est comme ça qu'on rentre dans ce diagnostic de syndrome d'immunodépression acquise. On commence à comprendre quelle maladie ça provoque, mais on ne sait pas quel est le microbe ou le virus qui provoque cette maladie. Donc on met ce mot de syndrome, c'est une association de symptômes.
Acquired immune deficiency syndrome, or AIDS,
le syndrome d'immunodéficience acquise, le sida, est une maladie qui touche les homosexuels.
This depression of the immune system can
cette dépression du système immunitaire peut amener à des formes graves de cancer, de coma.
Évidemment, tous les médecins sont assez rapidement tenus au courant, mais on va s'apercevoir qu'il ne concerne pas que Los Angeles, mais pratiquement toutes les grandes villes américaines, San Francisco, Chicago, New York. Et on voit aussi que d'autres maladies apparaissent à ce moment-là. On a parlé des pneumocystoses, on a parlé du cytomégalovirus, on a parlé des candidoses, et puis le sarcome de Kaposi, qui a été à ce moment-là appelé le cancer gay, parce que c'était là encore des personnes homosexuelles hommes qui présentaient ces lésions, qui étaient tout à fait inhabituelles dans ce contexte-là. Globalement, c'est un cancer de la peau, donc c'est des lésions qui sont croissance d'une tumeur, parfois saignotante, et qui va se développer jusqu'au décès du patient. Donc c'est un cancer grave. on arrive à identifier progressivement un premier profil qui est celui des personnes homosexuelles masculines. Et puis, très rapidement, on s'aperçoit que les mêmes symptômes se retrouvent chez des personnes qui sont plutôt des héroïnomanes. En fait, on attribue ça assez rapidement aux injections intraveineuses. On va trouver donc ça chez des receveurs de sang ou de produits dérivés du sang, comme les hémophiles. Et une quatrième catégorie qui est un petit peu différente, qui sont des patients originaires d'Haïti. Et on a à ce moment-là cette théorie ou explication par les quatre H. H pour haïtien, H pour héroïnomane, H pour hémophile et H pour homosexuel.
Aux États-Unis, le sida, le syndrome d'immunodéficience acquise, frappe surtout trois catégories de personnes. Les homosexuels, les drogués et les haïtiens. Tout cela est bien étrange. Le fait qu'on ne sache toujours pas guérir ce mal commence à provoquer un véritable vent de panique dans tout le pays. Il faut rappeler qu'une cinquantaine de cas ont été décelés en France.
Dès 1982-83, en fait, on va voir en France les premiers malades arriver avec exactement le même profil. Souvent des gens d'ailleurs qui vivent à New York ou vivent aux États-Unis et reviennent en France et présentent cette maladie. À ce moment-là, moi, je suis en troisième, quatrième année de médecine et je me souviens très bien que l'arrivée d'un malade suspect de sida dans un hôpital était quand même une affaire. Il y avait des gens qui ne voulaient surtout pas rentrer dans la chambre. Il y avait des gens qui se protégeaient avec des gants, des masques. Tiens, finalement, maintenant, on le fait. Mais à l'époque, ça paraissait bizarre. En plus, c'était pas pertinent, vu le mode de transmission. Il y avait vraiment des gens très inquiets, d'autres qui étaient quand même un peu plus raisonnables. Mais c'était vraiment un événement. Et très vite, on s'est aperçu que la communauté homosexuelle française, parisienne en particulier, était touchée aussi.
La maladie des homosexuels, celle que l'on a découvert il y a un an et demi aux États-Unis et qui fait de véritables ravages, des ravages mortels, eh bien cette maladie atteint maintenant l'Europe.
Cette maladie, dite des homosexuels, est appelée plus scientifiquement le syndrome immunodéficitaire acquis, c'est-à-dire un affaiblissement de nos défenses immunitaires. Elle est due vraisemblablement à un virus.
Mais les médecins sont formels. S'ils comprennent pourquoi les gays sont aujourd'hui frappés par ce mal, ils auront fait un grand pas dans la lutte contre le cancer.
Et ça a lancé finalement une volonté de faire une recherche sur cette maladie. À la Pitié-Salpêtrière, dans le bâtiment des maladies infectieuses, un des chefs de clinique de ce service, Willy Rosenbaum, voit arriver un cas qui n'a pas tout à fait les mêmes symptômes. C'est pas quelqu'un qui est en immunodépression forte liée à un stade avancé de la maladie, mais qui présente une autre particularité et il a l'idée de se dire tiens, c'est peut-être une forme précoce de sida qui est le fait d'avoir de la fièvre et surtout des ganglions. C'est la partie de primo-infection en quelque sorte par le virus du sida et il fait un prélèvement de ganglions. Quelqu'un va l'amener à l'Institut Pasteur. L'équipe donc de Luc Montagnier, de Françoise Barré-Simoussi et de Jean-Claude Sherman. Et c'est là que le virus sera isolé et c'est ce qui leur vaudra le prix Nobel de médecine en 2008. C'est aussi là qu'a été isolé le deuxième virus du sida, puisqu'on va s'apercevoir assez rapidement qu'il en existe un deuxième qui, lui, pratiquement, ne vient que d'Afrique, et particulièrement d'Afrique de l'Ouest. Le virus s'est isolé, et l'équipe de l'Institut Pasteur décide de l'envoyer aux États-Unis, aux spécialistes de cette catégorie de virus, en quelque sorte, que sont les rétrovirus. Cette personne-là est Robert Gallo. Il va y avoir un petit peu une vision différente. Et il y a une dispute parce que finalement, est-ce que c'est Gallo, est-ce que c'est Montagnier qui a découvert le virus du sida? Est-ce que les deux équipes se disputent cette paternité?
En fin de semaine, la secrétaire américaine à la santé, Margaret Heckler, annonçait qu'une équipe de scientifiques américains venait de découvrir la cause du sida, un virus appelé HTLV-3. Cette annonce avait lieu au même moment, peut-être un peu curieusement, que la découverte par l'Institut Pasteur de Paris, cette fois, d'un virus aussi qu'on croit également être la cause du sida, le LAV.
Et il va y avoir d'abord une dispute, est-ce que c'est un LAV ou est-ce que c'est un HTLV? Ils vont finir par se mettre d'accord, on va leur donner un nom neutre, HIV ou VIH, selon qu'on le dit en anglais ou en français, virus de l'immunodépression humaine. Les personnes qui auront identifié le virus, la cause d'une maladie, ont fait déjà une très grande part du travail pour la découverte d'un test diagnostique. Et donc, ils sont récompensés par des droits d'auteur, des droits d'inventeur en quelque sorte. Ils ont inventé, au sens découvert, le virus du sida. Et ça va aller très loin, parce que ça va aller jusqu'à une réunion entre les présidents des États-Unis et de France pour se mettre d'accord avec une sorte de gentleman agreement où les bénéfices seront partagés. Par contre, le comité du prix Nobel, lui, tranchera de manière beaucoup plus radicale. C'est pas les Américains qui ont découvert ce virus. Déjà, donc, on voit que derrière cette découverte, il y a un marché du diagnostic et ça va être la cause d'autres problèmes qu'on va voir arriver dans les années qui suivent.
5 à 15 000 personnes ont été contaminées par le virus du sida à cause d'une transfusion sanguine avant 1985 et principalement lors d'une intervention chirurgicale. Telle est aujourd'hui la terrible estimation des spécialistes.
29 mai 1985, le CNTS, Centre National de la Transfusion Sanguine, l'écrit noir sur blanc. Selon des calculs statistiques, tous nos produits pour soigner les hémophiles sont contaminés par le virus du sida.
À partir de 1985, il existe des moyens techniques de détecter les donneurs de sang séropositifs. Pour ça, il faut utiliser des tests. Et l'idée de cette invention, avec tous les débouchés que ça va avoir d'un point de vue économique, entraîne une concurrence et tous les moyens sont bons pour essayer de passer devant l'autre. Une des conséquences de cette concurrence sur les tests va être dans l'affaire du sang contaminé. Les Américains ont pris de l'avance. L'Institut Pasteur a eu quelques difficultés à se lancer, peut-être des difficultés de financement, et ils sont un peu en retard. À partir de 84-85, des tests apparaissent sur le marché pour dépister cette maladie, pour dépister le sida. Évidemment, on commence à se poser des sérieuses questions sur les transmissions par la transfusion, les transmissions par des facteurs de coagulation du sang pour les hémophiles. Il devient de plus en plus important de tester ces poches de sang. Mais les tests ne sont pas français, le test de l'Institut Pasteur n'est pas prêt, et c'est probablement un des éléments qui a poussé à tempérer l'utilisation du dépistage. Donc on voit que ces affaires d'argent peuvent avoir une influence très importante dans les choix que l'on fait et pour ne pas défavoriser une production française, on a pris un peu de retard qui a été complètement délétère pour un certain nombre de patients.
Aujourd'hui, on estime que 1350 hémophiles français ont été contaminés par le VIH. Mais de la guerre scientifique avec les États-Unis, la France est officiellement sortie victorieuse. Or, la découverte du virus ne donne pas la clé pour comprendre comment il a émergé. Et face à cette incertitude, en pleine guerre froide, on va assister à une gigantesque opération de désinformation de la part de l'URSS.
Les premiers cas de sida génèrent de la peur et aussi une incompréhension. Cette maladie est mystérieuse. On n'en avait pas jusqu'ici. Elle est différente des autres maladies. Elle provoque des cancers, des infections rares. On se demande vraiment ce qui se passe. Et aux États-Unis, en particulier, la communauté homosexuelle se pose beaucoup de questions sur son origine.
Deuxième épisode. Sida et KGB, la fake news d'une création en laboratoire.
Il y avait, longtemps avant, on va dire, des programmes à la fois en URSS et aux États-Unis, des programmes de guerre microbiologique, avec soit des programmes destinés à étudier les risques que faisait porter tel ou tel microbe ou tel virus, soit même la modification de microbes, de virus, à des fins de guerre, ou on pourrait parler maintenant de terrorisme, mais c'était évoqué. Et puis ça a été un outil de la guerre. La grande peste de 1348 commence par le fait d'assiéger une ville qui se trouve dans l'actuelle Crimée, qui s'appelle Kaffa, et de lancer, de catapulter dans cette ville les assiégeants qui venaient de l'Est, ont lancé des cadavres morts de la peste, et puis ensuite un bateau est parti et la pandémie de peste s'est propagée comme ça. Donc l'idée d'utiliser des agents infectieux pour provoquer des maladies chez l'ennemi existait, ça a aussi été utilisé contre les Indiens dans la conquête de l'Ouest. Enfin, il y a plein d'histoires comme ça tout à fait sinistres. Ça nous paraît complètement absurde maintenant de faire ça, mais c'était considéré comme une manière de faire la guerre. Aux États-Unis, ça s'est arrêté en 1969. Nixon, qui était président à l'époque, a dit non, stop, on arrête ça. Ils ne vont plus faire des armes de guerre, ils ne vont pas fabriquer de virus ou modifier des bactéries pour les rendre dangereuses pour l'homme et s'en servir pour des motifs donc de guerre avec d'autres pays. Mais dans l'esprit de pas mal de personnes, c'était quand même quelque chose qui était susceptible de continuer. Il commence à y avoir des rumeurs dans la communauté homosexuelle américaine autour de la création d'un virus complètement nouveau dans un laboratoire des États-Unis. Alors le laboratoire, il est vite nommé, c'est Fort Detrick dans le Maryland, parce que c'est là que se faisaient toutes ces expérimentations.
Not very far from Edgewood, in historic Frederick, Maryland, are the biological warfare laboratories.
C'est ici à Fort Detrick, dans le Maryland, que se trouvent les laboratoires sur la guerre bactériologique.
Here, men and women of science are doing a combination of medical and public health research.
Ici, des hommes et des femmes de science effectuent des recherches médicales sur la santé publique.
Research has led to many scientific findings beneficial to mankind.
Ces recherches ont permis d'importantes découvertes bénéfiques à l'humanité, comme cette ébauche de vaccin contre l'anthrax, cette maladie qui tue le bétail et les moutons. Voilà l'un des dérivés de ces recherches bactériologiques.
C'était un laboratoire d'expérimentation pour regarder comment on pouvait transformer des bactéries en spores pour les diffuser dans l'air, pour regarder si on pouvait fabriquer un virus. Et il y a d'ailleurs quelqu'un à la fin des années 60, tout début des années 70, qui dit la perspective, c'est de créer un virus complètement nouveau que l'humanité ne connaît pas comme arme de guerre. Cette personne-là s'appelle Donald MacArthur. Il travaille au ministère de la Défense et il a un poste élevé. Heureusement, d'abord Nixon dit non, stop, il arrête. Et cette personne-là va faire un autre travail. Donc il n'y a pas de raison de penser que ça a été fait, mais ça donne beaucoup de matière à s'inquiéter de l'activité de ce laboratoire. Toujours est-il qu'on est dans la période de guerre froide entre l'URSS d'un côté, l'OTAN et les États-Unis de l'autre, et le KGB va utiliser ce début de rumeur et va essayer de construire quelque chose pour déstabiliser la politique étrangère des États-Unis.
A Soviet military publication claims the virus that causes AIDS leaked from a US Army laboratory conducting experiments in biological warfare.
Ils écrivent un premier article. Alors généralement, ce qu'ils font, c'est que ils le publient pas évidemment à Moscou ou dans les pays satellites de l'URSS, mais ils se débrouillent pour les publier généralement dans des pays un peu indépendants, un peu neutres. Et donc là, c'est dans un petit journal en Inde qu'ils écrivent un premier article, justement expliquant que il y a de bonnes raisons de penser que le virus du sida a été fabriqué à Fort Detrick. Et la stratégie, c'est de construire un article avec des choses vraies, des éléments qu'on peut vérifier, des choses à moitié vraies, puis les choses qu'on veut glisser qui sont totalement fausses. Donc là, c'est facile d'étayer ça avec les premiers résultats d'épidémiologie qui montrent que ça a commencé aux États-Unis. Et ce premier article fait un peu un flop. Ils en retentent un deuxième, marche pas tellement mieux, c'est un ou deux ans après, et on est en 85, et là ils vont faire ce que les historiens considèrent comme un coup de maître, mais c'est pas les soviétiques, ce sont les Allemands de l'Est qui vont avoir cette opportunité. Ils vont réussir, on sait pas trop comment, mais ils vont réussir à convaincre un scientifique allemand, qui s'appelle Jacob Segal, sa femme Lily Segal. Ils sont d'origine juive, ils ont séjourné en France, et puis après la guerre, ils sont retournés en Allemagne de l'Est, et ils avaient des acquaintances avec le Parti communiste. Mais c'est une personne donc qui est germanophone, qui est un scientifique établi, et qui a du temps libre, parce qu'il vient d'arriver à la retraite. Ils arrivent à le convaincre, et il s'empare de cette histoire, et il va construire tout l'argumentaire pour expliquer qu'effectivement, l'explication de loin la plus probable, c'est la construction d'un virus en laboratoire.
Si le virus du sida attaque les humains, c'est qu'il est le résultat d'une manipulation génétique. Et si nous avons pris du retard dans la recherche, c'est qu'il est en fait une nouvelle arme biologique.
Il a des arguments de type génomique, la constitution même du virus. Il pense que c'est une recombinaison entre deux virus, dont le fameux HTLV de Robert Gallo et un autre, un virus beaucoup moins connu, qui est Vizsna, qui se trouve chez les ovins. Donc un virus recombiné, et puis derrière des arguments qu'il va développer. À ce moment-là, on est en 85-86, on commence à parler d'une origine peut-être africaine du sida. Il va développer tous les arguments épidémiologiques pour dire que le sida est quand même beaucoup plus fréquent aux États-Unis, qu'il y en a un peu en Afrique, comme il y en a un peu en Europe, mais ça n'a rien à voir avec la fréquence du sida, en particulier dans un certain nombre de catégories de personnes, homosexuels, héroïnomanes, et chez les donneurs de sang aussi, donneurs et receveurs. Et là, il explique que, selon lui, il y a eu des essais chez des prisonniers. Alors c'est vrai qu'à un moment, il y a eu, moi j'ai retrouvé des publications qui sont faites sur des prisonniers à qui on donne l'agent du choléra pour regarder au bout de combien de temps ils ont la diarrhée. Donc ce type d'essai existait dans les années 70. Et Jacob Segal se dit, bon, ben, pourquoi des homosexuels, pourquoi des héroïnomanes? En fait, c'est typiquement les populations qu'on peut trouver en prison, l'homosexualité en prison, le fait d'être héroïnomane, etc. Et comme la maladie dure assez longtemps, ça n'a pas dû satisfaire les expérimentateurs. Et donc, ils ont ramené leurs cobayes, en quelque sorte, en prison. Ils sont sortis de prison depuis. Et c'est comme ça que la maladie s'est propagée d'abord dans la communauté homosexuelle et chez les héroïnomanes des grandes villes américaines. Donc, il avait quand même une série d'arguments. Et toute la subtilité des services secrets était dans le fait de ne pas forcément lui dicter quoi que ce soit, mais l'encourager à penser ça, à diffuser ses idées, et en particulier dans des revues en dehors du bloc soviétique, par exemple en Allemagne de l'Ouest. Et eux-mêmes ont récupéré l'espèce de mémoire écrit par Jacob Segal. On était en 86, il y avait une conférence des pays non alignés à Harare, l'ancien Zimbabwe. Et ça a bien marché. Ça a eu un énorme succès, cette histoire-là, parce que c'est une histoire qui permettait de dire que les Américains avaient des théories racistes sur le sida, et que, au contraire, c'était eux les fautifs. Donc, c'est vraiment extrêmement délétère pour la vision que pouvaient avoir les populations des Américains, et en particulier des militaires américains. Et ça s'est vu, y compris finalement dans les implantations dans les pays où des bases militaires étaient présentes, et il y a eu une certaine distanciation de la population vis-à-vis des militaires américains. Donc ça a duré quelques années, jusqu'en 89-90, avec la chute du mur de Berlin.
So geht's, so braucht, und nichts anderes. Wow.
Les Allemands de l'Est qui avaient manipulé les épouses Ségal avaient détruit leurs archives, mais ils avaient communiqué avec d'autres pays comme les Bulgares. Et c'est en regardant ces archives que les historiens ont pu reconstituer toute cette histoire. Jacob Ségal, lui, est resté persuadé jusqu'à son décès en 1995 qu'il avait raison. Il a même fait une fixation sur Gallo, sur Robert Gallo, et sur la construction du virus, finalement, avec l'aide de Robert Gallo aux États-Unis. Donc, il était tellement sûr de son histoire qu'il n'a pas pu admettre que ce soit autre chose.
Le sida, c'est pas du tout un virus.
On a monté la mayonnaise de façon à créer une nouvelle maladie.
Ça fait partie des théories du complot. Le sida est un virus créé en laboratoire, l'un des complots les plus répandus.
Cette histoire nous montre finalement que derrière les mystères se construisent des croyances, des rumeurs. En 1992, 15% de personnes choisies au hasard aux États-Unis considéraient que le fait que le sida a été créé en laboratoire était soit probable, soit certain. Et si on s'intéresse à la communauté afro-américaine, en 2005, une étude a révélé que presque la moitié des afro-américains pensaient que le sida a été fabriqué par l'homme et un peu plus d'un quart considéraient que c'était un produit d'un laboratoire gouvernemental.
Cette femme dit que le sida est une invention pour anéantir le peuple noir d'Afrique.
Oui. Bon. Dieudonné, France 2, 2004.
Moi, la seule chose que je dirais aujourd'hui, est-ce qu'on ne pourrait pas faire par rapport à cette maladie terrible? 80% des gens qui vont mourir de cette maladie sont noirs sur la planète. Donc ça serait peut-être pas mal quand même de faire, je sais pas, une sorte de... une analyse, une étude sur les origines de cette maladie, mais complètement indépendante. C'est-à-dire,
vous en êtes à penser que le sida a été consciemment développé pour anéantir les Noirs d'Afrique.
Moi, je m'interroge.
Cette histoire de désinformation montre bien quels en sont les ressorts. Toujours se reposer sur une partie vraie, sur quelque chose au moins crédible que les gens aiment à entendre, ou en tout cas veulent entendre. S'ils sont conspirationnistes, ils aiment à entendre des histoires de virus fabriqués. Et de rajouter au milieu des choses fausses de manière à construire l'histoire qu'on veut. La seule manière de sortir de cette incompréhension, c'est de trouver la véritable cause et de la documenter.
Bien loin de cette fake news d'une création en laboratoire, laissez-vous conduire jusqu'à la source, jusqu'à la réelle origine du sida, en remontant la piste de l'histoire coloniale. Yo, check it, possible and vibe, and then I need to bend the mood, yeah. Put pas it, that is the beginning, but I'm watching the room, sit down.
Mécanique des épidémies avec Renaud Piarou.
pour retrouver le fil et identifier l'origine du sida, on a utilisé une méthode qui est de plus en plus utilisée maintenant, mais qui était presque balbutiante à l'époque, qui consiste à analyser le matériel génétique du virus ou d'une bactérie pour essayer de remonter dans le temps.
Troisième épisode, comment le sida a émergé.
Imaginons que l'on ait déjà un certain nombre de virus isolés, on regarde leur matériel génétique, on regarde leurs différences, on essaye d'imaginer quelle était la racine commune, combien de mutations ont eu lieu depuis cette racine commune, et puis ensuite, on va chercher où peut-on trouver ce virus ancestral qui est ensuite passé chez l'homme et qui a commencé à diverger. En prenant en compte ces aspects-là, ces aspects de ce qu'on appelle l'horloge moléculaire et les variations qui s'accumulent au cours du temps, les mutations, on peut comme ça établir à peu près à quel moment s'est fait le passage à l'homme. Pour ce qui est du virus du sida, on va s'apercevoir très vite qu'il n'y a pas qu'un seul virus du sida. J'ai parlé de HIV1 puis de HIV2, mais en fait il y a plusieurs HIV1, il y en a quatre. HIV1 qu'on va appeler M, M comme main, major, le principal. HIV1O, c'était l'autre outlier. Et puis il y en a, ils en ont trouvé encore un autre. Ah, on peut pas l'appeler M, ils l'ont appelé N, c'est ni O ni M. Et on est arrivé en quatrième. Voilà, ils avaient M, N, O, ils se sont dit tiens on va mettre P, il y a plus de raison. Donc on a HIV1, M, N, O, P. Pour HIV2, ils ont compris que c'était pas très malin de procéder comme ça. Ils ont commencé par A, puis B, puis C, puis D. C'est toujours compliqué parce que ils ont appelé un nouveau virus E. Ils sont aperçus que finalement, ils l'avaient déjà. Donc, finalement, ils ont éliminé le E, le F, le G. Comme ça, il y en a eu 9. 9 HIV2, 4 HIV1. Autant de virus de sida qui sont passés des singes à l'homme. HIV2, on sait maintenant que ce sont plutôt des singes du type mangabé, singe vert, qui vivaient en Afrique de l'Ouest. HIV1, c'est les grands singes, les chimpanzés, les gorilles, en Afrique centrale. Et en fait, en étudiant les virus portés par ces singes, on sait maintenant que ce sont des groupes de singes qui vivent plutôt dans le sud-est du Cameroun, qui sont à l'origine des quatre passages HIV1, M, N, O et P. Donc on localise l'endroit à quelques centaines de kilomètres finalement près. On est dans la forêt africaine autour de 1920 et l'hôte à partir duquel l'homme s'est contaminé qui est le chimpanzé. Pour d'autres HIV1, ce sera le gorille, mais pour le HIV1, M, c'est le chimpanzé. Donc des choses extrêmement précises. Alors si j'insiste sur cette précision, c'est pour dire que on a vraiment les moyens, quand on veut chercher, de reconstituer toute la chaîne jusqu'au réservoir animal. On va même un peu plus loin. Ces virus de gorilles, on sait qu'ils les ont attrapés des chimpanzés, dans des explications de textes qu'ils ont eues entre gorilles et chimpanzés au sein de la forêt, mais ceci ne nous regarde pas. Et les chimpanzés sont éventuellement carnivores, pas les gorilles, mais les chimpanzés, oui. Et eux peuvent chasser des singes plus petits. Et probablement, la contamination s'est faite comme ça. Et on sait maintenant à peu près comment est constitué ce HIV, qui n'a plus un HIV puisque c'est le chimpanzé, donc c'est un SIV pour singe, qu'on va retrouver donc chez les chimpanzés. On sait que c'est une recombinaison de plusieurs virus qu'on va trouver chez les singes. On peut reconstituer sur des centaines d'années, jusqu'à 1920, la constitution de ce réservoir de virus chez le chimpanzé, et puis en 1920, le passage chez l'homme.
Des chercheurs français, britanniques et américains ont identifié au Cameroun le groupe de singes considéré comme réservoir naturel du virus du sida. Ces chimpanzés porteurs sains du virus seraient à l'origine de la pandémie mondiale qui a déjà fait 26 millions de morts et infecte aujourd'hui 40 millions de personnes.
Ce travail sur la recherche de virus chez les chimpanzés, chez les gorilles, chez les singes. L'étude des génomes qu'on trouve chez l'homme est faite par, on va dire, la communauté scientifique en général. Beaucoup de chercheurs participent en apportant une petite pierre à l'édifice et petit à petit, on obtient un grand nombre de génomes, un grand nombre d'analyses et on finit par reconstituer cette histoire qui va des singes jusqu'aux chimpanzés, jusqu'à l'homme et qui nous amène finalement au Cameroun en 1920. Le passage du singe à l'homme se fait de manière toute bête, probablement par la chasse. Des personnes qui vivent dans la forêt braconnent. À l'époque, en plus, la protection des chimpanzés n'était pas la même que celle qui existe maintenant, aux chimpanzés et gorilles. Et c'est au cours de braconnage ou en dépeçant une bête. Enfin, une plaie en chassant, c'est tout à fait banal. Il faut un contact avec le sang. Et on imagine tout à fait que ça puisse arriver dans ce contexte-là. Va se passer une période, 1920-1981, on a 60 ans, pendant lesquels finalement le virus va devoir s'adapter. Mais si le virus n'est pas adapté, alors comment se fait-il qu'il se transmette ? Ce qu'on pense maintenant, c'est que effectivement, il lui fallait passer assez souvent d'homme à homme pour petit à petit modifier ses protéines, modifier son code génétique de manière à être adapté. Il y a plein d'interactions moléculaires dans une infection virale. Non seulement il faut rentrer dans la cellule, mais il faut survivre dans la cellule. Une partie doit passer dans le noyau de la cellule parce que c'est un rétrovirus. Tout ça est très complexe et à chaque fois, il y a des défenses qui interviennent et il faut échapper à ces défenses. Cet ensemble-là nécessite de s'adapter. En fait, l'histoire du sida va coïncider avec le développement de deux villes qui sont l'une en face de l'autre, le long du fleuve Congo, qui sont Brazzaville et ce qui deviendra Kinshasa, mais qui s'appelle à ce moment-là Léopoldville. Léopoldville en l'honneur du roi Léopold, qui pendant un temps était propriétaire de l'actuelle République démocratique du Congo. Propriété privée.
Voyage royal au Congo. Le roi reçoit maints témoignages de sympathie individuelle et sa voiture se trouve fréquemment bloquée par la foule indigène. Au timide hommage de fleurs des enfants blancs, répond celui des fillettes noires que le roi reçoit avec la même gentillesse. Quelle que soit son issue, la mission royale aura considérablement élargi les sympathies congolaises pour la Belgique.
Ce sont deux petites villes, Brazzaville quasiment un village, c'est les Français qui le tiennent. Léopoldville, ce sont les Belges, une ville un peu plus grande. Et elles sont situées à la fin de la très grande portion du fleuve Congo qui est navigable. Les bateaux peuvent naviguer. Donc toutes les richesses exploitées dans la grande forêt africaine vont passer par là. Mais en aval de Kinshasa actuellement, et donc de Léopoldville, il y a des rapides et on ne peut plus naviguer. Et donc les Belges ont construit une ligne de chemin de fer qui va relier Léopoldville à la côte, actuellement Kinshasa à Matadi. Les Français donc vont faire pareil et vont relier Brazzaville à la côte eux aussi, avec une nécessité de faire venir énormément d'ouvriers. Et ces deux villes, Léopoldville et Brazzaville, vont être des camps de travail en quelque sorte, où pour ce qui est de Léopoldville, les familles ne sont pas admises à venir. Donc ce sont les hommes qui viennent pour travailler, et comme il y a des hommes pour travailler, certaines femmes arrivent pour faire le métier de péripatéticienne, plus vieux métier du monde. Et on a donc une société organisée de manière tout à fait particulière, énormément d'hommes jeunes, travaillant, et finalement de beaucoup de personnes qui font le commerce du sexe, le commerce de leur corps. Maintenant, on a compris que ce qui a facilité ce passage d'homme à homme assez répété et en évitant un certain nombre de défenses, ce sont les usages qui étaient faits de matériel injectable stérilisables officiellement, mais mal stérilisés dans des injections répétées.
Ce territoire de millions d'habitants était dévasté par un terrible fléau, la maladie du sommeil. Le Tap-Tap rassemble les indigènes pour l'équipe de traitement. Le médecin examine tous les cas de maladie et se sert de peinture blanche pour marquer sur le torse même du malade son diagnostic. Le premier traitement est de suite appliqué par les infirmiers, piqûre intraveineuse faite en brousse. Les résultats, après 6 piqûres, déjà forte amélioration. 8 et 9 piqûres, la guérison. Telle est l'œuvre accomplie par la mission.
À partir de 1920 et dans la première partie du XXe siècle, sont menées en Afrique des campagnes de santé publique contre un certain nombre de maladies, et en particulier la plus emblématique est la maladie du sommeil, une maladie transmise par des mouches qui s'appellent les mouches tsetse. Et les patients, en fait, vont développer une maladie chronique qui petit à petit les amène dans un coma, d'où le nom maladie du sommeil, et ils décèdent de cette maladie. Le traitement à l'époque est basé sur l'arsenic, ça a duré très longtemps. Et ce traitement donc se donne de manière injectable, il est pas très bien supporté, donc on essaye de donner les doses minimales, mais on est obligé de répéter ce traitement pour, en quelque sorte, arrêter la transmission de la maladie du sommeil. Sauf que, étant fait avec des aiguilles et des seringues réutilisables, et à des cadences extrêmement rapides, les gens sont alignés et sont traités à la chaîne, ça offre au virus du sida l'occasion de passer d'une personne à l'autre très rapidement. Ça lui permet d'éviter un certain nombre de défenses et donc il passe du sang d'une personne au sang d'une autre personne sans passer par les défenses de la peau, des muqueuses, etc. Et ça permet une transmission accélérée et une adaptation accélérée du virus à l'homme. Tout ça faisait que finalement les populations africaines étaient assez volontiers soumises à des injections répétées et des injections qui étaient faites sans prendre de précautions pour éviter la transmission de personne à personne. C'est là que les deux facteurs de transmission se mettent bien en place, par voie injectable, parce que ça fait venir beaucoup de monde de la forêt, et beaucoup de gens qui ont des sérologies syphilis positives, même faussement positives, beaucoup d'injections, et puis une transmission par voie sexuelle qui se met en place et qui devient de plus en plus efficace. Et quand arrive l'indépendance en 1960,
la République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants.
La situation économique s'écroule, la prostitution devient une prostitution encore plus dangereuse, en quelque sorte, parce qu'il y a plus de rapports sexuels pour gagner sa vie pour les femmes. Et on va avoir là une véritable explosion du sida à Kinshasa dans les années 60. Ce que nous enseigne cette histoire, c'est que un virus, pour s'adapter à l'homme, va avoir besoin de voies de propagation. Ces voies de propagation, elles ne sont pas constantes dans l'espace et dans le temps. Elles peuvent avoir des liens historiques extrêmement forts. Par exemple, ces campagnes de lutte contre la maladie du sommeil ou d'autres maladies qu'on a pu avoir, un autre virus qui est le virus de l'hépatite C, par exemple, s'est propagé de manière extrêmement forte en Égypte dans des campagnes de lutte contre une autre maladie parasitaire qui s'appelle la bilharziose. Donc on a à un moment donné, à un endroit donné, une voie de propagation idéale. Un des virus du sida, HIV1M, en a profité à plein et a pu devenir pandémique grâce à la capacité que ça lui a donnée à s'adapter à l'homme et à passer d'une transmission par voie intraveineuse ou intramusculaire, mais en tout cas des injections répétées, petit à petit, il a pu s'adapter pour faire une transmission sexuelle efficace. Et on voit bien que cette fenêtre peut se refermer et on en parlera dans un prochain épisode à propos du petit frère, le HIV2, par exemple.
Enraciné autour de Kinshasa pendant 60 ans, le sida est ensuite devenu une pandémie mondiale en seulement 20 ans. Entre l'Afrique coloniale des années 60 et les États-Unis des années 80, un maillon essentiel de cette propagation est à chercher du côté d'Haïti.
À côté de HIV1, il existe donc une autre série de virus, les HIV2. Il y en a 9. Et ceux-là ne sont pas totalement devenus pandémiques. C'est intéressant de savoir ce qui s'est passé.
Quatrième épisode. Les variants se partagent le monde.
Alors HIV2 ne démarre pas en Afrique centrale, mais en Afrique de l'Ouest, dans le territoire de l'actuelle Guinée-Bissau, ou aussi dans la forêt de Thaï qui se trouve en Côte d'Ivoire. Donc on est encore dans des espaces forestiers, c'est normal, puisque le réservoir est constitué par des singes. Alors ce ne sont pas les chimpanzés, là, ce sont des singes tels que les singes verts, les singes mangabés. Et on va avoir la même histoire que ce qu'on a pu voir au début à Léopoldville, mais un peu plus tard, parce que la transmission s'est faite un peu plus tard. Mais rappelez-vous que la Guinée-Bissau a acquis son indépendance plus tard, puisque c'était une colonie portugaise. Et jusqu'en 1975, le Portugal avait la main sur ses colonies.
La maladie du sommeil ravageait des régions entières. Des groupes mobiles vont la dépister de village en village. Le chef indigène, qui comprend l'importance de la visite médicale, pour lui donner un caractère de solennité, amène avec lui son orchestre. On pique le bout du doigt, on examine la goutte de sang. Les suspects, dont le nombre de 60% est tombé à 1%, sont décorés d'une croix blanche. On procède alors chez eux à une prise ganglionnaire pour examen plus approfondi. Plus d'un million de travailleurs sont ainsi visités chaque année.
Et justement, des campagnes étaient organisées avec ces injections répétées et le HIV2, virus différent de HIV1, vraiment différent, mais avec les mêmes modes de transmission, a profité de ces injections à répétition pour commencer à se développer, à prendre de la puissance et puis à améliorer sa transmission. Et HIV2 a accompagné les Portugais et surtout les forces coloniales, les déplacements de population vers l'Angola, vers le Mozambique. Et on va retrouver ce virus-là essentiellement en Afrique de l'Ouest et un peu en Angola et au Mozambique. À partir de 1975, ces campagnes d'injection répétées diminuent très fortement. C'est l'indépendance, ça n'est plus une priorité. Et le HIV2 va avoir moins d'occasions. Il n'a peut-être pas eu tout à fait le temps de s'adapter. Il est moins transmissible par les rapports sexuels. Et ce qu'on voit actuellement, c'est que HIV2, un, n'a pas donné de pandémie. Une pandémie, c'est une infection qui va toucher plusieurs continents, on va dire. Donc il est pratiquement resté sur le continent africain, sur la partie ouest du continent africain, avec des cas, mais plutôt des cas importés en Europe. HIV2 n'est pas devenu pandémique et même a tendance maintenant à régresser. C'est-à-dire que la simple transmission sexuelle, hétérosexuelle, qu'on a en Afrique, ne suffit pas pour diffuser HIV2. Comme la maladie est longue, les gens contaminés il y a des dizaines d'années sont toujours positifs, il y a toujours des cas, mais ce qu'on pourrait appeler le R effectif en quelque sorte est inférieur à 1 et on a tendance à une régression. HIV1 a eu un destin complètement différent, enfin, pas tous les HIV1, un des HIV1 qui est HIV1M, qui est le seul à être devenu pandémique. On l'a laissé, il était à Léopoldville, qui devient Kinshasa en 1960 avec l'indépendance. Et l'indépendance, c'est une situation qui a été extrêmement compliquée dans ce pays qui devient le Zaïre.
C'est dans l'émeute et le sang que se sont déroulées les premières heures de la nouvelle République congolaise, née de l'ex-Congo belge. Léopoldville reste encore vide et muette, prostrée dans la stupeur et l'effondrement après les violences des derniers jours.
Les Belges s'en vont. Ils n'avaient pas formé de médecins africains, donc il n'y a pas de médecins congolais pour leur succéder. Il y a très peu de personnes qui ont fait des études. Et pour faire fonctionner le pays, donc il est fait appel à des personnes qui viennent d'autres régions du monde, et tout particulièrement d'Haïti. Haïti parce que c'est un pays francophone, comme le Zaïre. Il y a une population noire qui a des liens avec l'Afrique. Et en plus, il y a un dictateur, Papa Doc puis de Baby Doc, et les tontons Macoutes, qui poussent finalement un certain nombre de personnes à chercher un espace ailleurs. Tout ça fait qu'il y a pas mal de médecins haïtiens et d'universitaires haïtiens qui viennent aider au développement du Zaïre. Il y a une pauvreté très importante. Kinshasa se développe à une vitesse grand V, avec énormément de prostitution, une prostitution plus à risque, et le sida commence à prendre des proportions importantes, et puis va diffuser sur l'ensemble du Zaïre. Avec cette diffusion, il y a une diversification. C'est-à-dire qu'on va trouver à Kinshasa une grande variété de virus. Ils ont évolué pendant des années et donc ils commencent à se différencier. Et on va voir une diversification et l'apparition de variants. Et ces variants vont avoir des destins différents. Il y a un variant qui va donc vers Kisangani, qui est le variant A, et qu'on va retrouver ensuite plutôt en Afrique de l'Est et puis aussi dans les pays d'Asie centrale et même d'Europe de l'Est. Il y a un variant C qui est plutôt à Lubumbashi et qui va coloniser toute l'Afrique australe et une partie de l'Afrique de l'Est. Il a même la particularité d'être plutôt plus transmissible que les autres. On va parler du variant B, mais encore d'autres variants, le variant G qui va plutôt aller en Afrique de l'Ouest. Il va faire un peu concurrence à HIV2, mais il est plus adapté. Et puis, il va y avoir des recombinants entre variants, comme des deltacrons pour le coronavirus. Il y a un recombinant AG qui devient prédominant en Afrique de l'Ouest. Et ce variant B, lui, est un variant qui est rare dans le Zaïre de l'époque. Mais il se trouve que probablement une personne va l'attraper. Un Haïtien, on ne sait pas si c'est un médecin, et va rentrer en Haïti. Et donc on est en Haïti, on arrive dans les années 75, 76, 77, et ce pays est dans une situation déjà difficile. Il y a à la fois la pauvreté et beaucoup de business, et une manière assez sauvage de faire du business, un peu américaine. Les plus forts exploitent les plus faibles. Il y a déjà des bidonvilles, il y a déjà de la misère et des gens vendent de leur sang. Et donc se créent des usines à prélèvement de sang, en quelque sorte, où les personnes donnent leur sang. S'ils ne donnent que leur sang, ils sont obligés de revenir tous les X temps, mais on leur demande aussi s'ils veulent donner leur plasma, et ça c'est plus facile. On prend le sang, on met les globules rouges de côté, on prend le plasma, et puis on réinjecte les globules rouges. Pour arranger les choses et peut-être aller plus vite, il arrive que le sang de plusieurs personnes soit mélangé, soit poulé et réinjecté. Vous voyez très bien les risques, non seulement de transmission, mais les risques de transmission avec des formes accélérées, des formes très graves et très rapides de sida, puisque tout d'un coup, là, c'est pas une micro-goutte dans une seringue, c'est des litres ou des demi-litres de sang qui sont comme ça injectés, passés dans des tubulures, réinjectés, etc. On peut penser que les précautions étaient minimales. Et c'est très probablement, alors là évidemment c'est juste des hypothèses, mais l'explication de cette flambée du sida en Haïti fin des années 70, tout début des années 80, avec une transmission beaucoup plus rapide qu'une transmission sexuelle. Toujours est-il que ce que l'on sait, c'est que on n'a pas une grande diversité des agents du sida. Il y en a plein, pourtant, là, en Afrique. Il y a A, B, C, D, on va jusqu'à G, etc. Là, on n'a que du B. Donc, on a ce qu'on appelle un effet fondateur. C'est une personne qui l'a amené. Et cette personne toute seule est à l'origine d'une propagation extrêmement rapide du virus. Et c'est pour ça qu'on cherche des modes de propagation liés plutôt aux transfusions, aux dons de plasma, aux dons du sang, que des modes de transmission sexuelle. Évidemment aussi, Haïti est le lieu de tourisme sexuel entre les États-Unis et Haïti. Et puis, le sang collecté en Haïti est revendu, ça part partout dans le monde. Et finalement, dans la première émission, le premier épisode, j'avais parlé des 4 H. On avait très bien compris le H des hémophiles à cause des produits sanguins. On avait bien compris le H des homosexuels. On avait compris celui des héroïnomanes, mais les Haïtiens, c'était pas très clair. Mais probablement, c'est parce que le point de départ, c'est la contamination d'Haïti par ce commerce du plasma et du sang qui va très vite passer en l'espace d'un an ou deux aux États-Unis, puisqu'on est sur une transmission par voie intraveineuse avec des inoculums, des quantités de virus qui sont massives. Et voilà comment, à partir d'une maladie africaine, on se retrouve à une maladie qui devient visible aux États-Unis avant même d'être visible en Afrique, bon, au bout de quelques années, 84-85.
Texas, les premiers signes d'un vent de panique qui balaye l'Amérique. C'est un fléau, une maladie qui affecte la communauté homosexuelle et elle contamine maintenant la communauté hétérosexuelle, les enfants et les bébés.
La pandémie devient manifeste fin des années 70, début des années 80, 60 ans après le passage chez l'homme. Et par exemple, la communauté africanaire blanche d'Afrique du Sud est contaminée par le variant B, alors que les Noirs d'Afrique du Sud sont contaminés par le variant C. Donc on a une géographie du virus qui traduit beaucoup de choses, beaucoup plus que la simple idée qu'une personne en contamine une autre. Il se passe plein de choses autour de ça. Pour résumer toute cette histoire de la pandémie du sida, on voit que d'abord on a de temps en temps des passages de l'animal à l'homme, et la plupart du temps ça ne donne rien, ça n'entraîne rien, et probablement avant 1920 il y a eu des passages, les chimpanzés étaient déjà contaminés, ils étaient déjà chassés, il y a eu des passages du chimpanzé à l'homme, et puis il ne s'est rien passé parce que la personne a pu contaminer son entourage proche et puis la maladie s'est arrêtée. Là, on voit bien qu'il faut donc des conditions particulières, que ces conditions particulières, elles ont un déterminisme historique et géographique. Tout ça pour dire que une maladie virale, bien sûr, c'est quelque chose de naturel. Bien sûr, on dit que quand on va déranger les écosystèmes forestiers, on prend des risques, etc. Mais en fait, c'est infiniment plus complexe que ça. Et on a beaucoup de choses à apprendre de ces histoires-là et de la manière dont un virus, le HIV1M, s'est adapté à l'homme pour que ces variants donnent une pandémie qui touche maintenant 40 millions de personnes qui vivent avec ce virus sur la planète.
Mécanique des épidémies, deuxième saison, le sida. Par l'épidémiologiste Renaud Piaou. Réalisation Clément Nouguier. À la technique Nicolas Delmas. Conseillère au programme Camille Renard. Avec la collaboration de Pascaline Bonnet. À suivre, troisième saison, la grippe.